Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui fait parler les femmes sur leur rapport à l'amour et leurs histoires d'amour. Aujourd'hui, c'est Élise qui est venue me parler de son rapport à l'amour qu'elle définit comme prioritaire dans sa vie. Elle raconte son histoire avec son compagnon avec qui elle est depuis 14 ans, son plaisir du quotidien, de la routine avec lui et son coup de foudre quand elle l'a rencontré. Elle parle aussi de son hypersensibilité dans la vie et en amour, de ses relations précédentes avec son syndrome du sauveur, d'infidélité, d'anorexie, de la théorie du pilier et de l'importance de se considérer chanceux d'être avec l'autre des deux côtés du couple. Merci beaucoup à Élise pour son témoignage qui est le dernier de l'année 2022 et merci à vous d'être toujours plus nombreux à écouter Amour. Si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à lea.bordier@gmail.com. Toutes les informations sont en description. Je vous laisse avec notre échange. Bonne écoute.
Je suis super bien installée.
Sinon, tu t'enlèves les choses, tu te mets sur le lit complètement.
Non, mais là, ça va. Regarde, t'es avec bien. Cette belle pose là.
Oh, magnifique. C'est cadeau. Est-ce que c'est mieux comme ça pour toi?
C'est très bien comme ça. Est-ce que je peux te prendre juste mon verre d'eau qui est derrière Merci. Toi? Parce que j'ai un petit coup de chaud. Ça, c'est mes. En plus,
raison, je vais me sortir
un truc des règles.
Avec moi, au cas où. Parce que je suis la pro pour m'étouffer avec ma propre salive. Vous connaissez ça?
Non!
C'est
mais j'ai un peu envie de voir ça du coup.
C'est un don, c'est un don que dont j'ai été dotée à la naissance. Des fois, je respire trop fort ou j'avale et je m'étouffe.
Voilà, ah merde! Donc écoute, ça... En fait, non, j'ai pas trop envie d'assister à ça. J'ai pas envie que tu te fasses mal. Ok, est-ce que t'es prête?
Ouais.
Alors, je suis avec Élise aujourd'hui. Salut Élise.
Salut Léa.
Comment vas-tu?
Bah, très bien. Je suis très heureuse de te retrouver.
Moi, je suis très heureuse de te découvrir dans ta chambre d'adolescente oui. à Marseille, improbable
oui.
quand même.
C'est dingue, on avait besoin d'un endroit calme et finalement ça s'est organisé comme ça, au hasard. Enfin ouais. pas au hasard, un peu au dernier moment.
Grave, bah, tu donc, m'as écrit hier.
Ouais.
C'était hier.
Hier, tu as mis ta story avant-hier.
Salut, je suis à Marseille.
Et je dis bah ouais, mais attends, moi aussi je suis là, justement je passe à Marseille. Et donc nous voilà dans ma chambre d'ado.
Trop bien, est-ce que tu peux te décrire un petit peu ta chambre d'ado, qui est restée quand même bien dans l'état quoi.
Elle est pas mal en état, enfin toujours un peu dans le même état qu'à l'époque. C'est d'une tapisserie un peu vert turquoise.
Ouais. T'as pas la frise, tu te rappelles de... Ah, t'as les étoiles
ah oui.
lumineuses.
Non, mais parce que j'ai quand même une mère qui aime le beau et l'esthétique. Et donc, du coup, c'est une chambre d'ado, mais qui ressemble à une chambre d'adulte. Je sais pas ce que t'en penses.
Alors, on voit le côté ado quand même.
Le fait qu'il y ait une couleur, mais il n'y a pas la frise, il fallait quand même que ce soit...
Ah, j'avais la frise, hein. Je trouve que ça faisait bien ado.
Ah,
hein.
C'est vrai.
Ah ouais, ouais. J'étais contente.
Non, moi, il y a les peluches.
Ça, le gros
ah,
truc,
oui,
c'est des...
Ah, mais ça, par contre, ça, c'était l'indispensable de ma chambre. Je pense qu'on peut enlever tout le reste, sauf ça.
Je trouve que ça fait vraiment années 90-2000, quoi.
Ouais. Et tu vois, c'était triple CD.
Oh là là.
Extraordinaire.
Mais qu'est-ce que ça changeait, triple CD?
Bah, c'est que tu pouvais cliquer et ça changeait le disque qui était à l'intérieur.
Oh, ah ouais, t'avais un truc de luxe, toi.
Ouais, moi, j'avais pas ça, à mon avis, hein. C'était un cadeau d'anniversaire, ça.
Ouais.
Mais bon, finalement, tu vois, les cassettes ont bien servi aussi.
Ouais.
Et la radio, surtout, j'écoutais tout le temps la radio. Moi, la musique, ça a été, c'est toujours été un indispensable dans
ma
vie.
Tu peux rappeler ce que c'est les cassettes pour les moins de 20 ans?
Alors, les cassettes, c'était un petit produit, comme une espèce de petite disque dur externe ouais. qui nous permettait d'enregistrer la musique qui passait à la radio pour oui. la réécouter en boucle. Et tu sais, ce moment
toujours
où tu
même.
Écoutais une seule chanson ouais. et tu rendais les gens dingues autour de toi, voilà, j'adorais faire ça. Et donc, je n'achetais pas les cassettes ou les CD, j'enregistrais sur la radio.
C'est vrai.
Donc, j'avais toujours ça. Les versions où les mecs, les DJ, ils faisaient ouais. « Oui, vous êtes sur Energy, vous êtes sur Skyrock, en plein milieu de la chanson, tu vois. » Du coup, quand tu écoutes la chanson aujourd'hui, dans ta tête, il y a toujours le bruit de l'animateur radio qui parlait par-dessus.
Mais c'était une sorte de piratage, en fait.
Ben oui, à l'époque.
De la radio, quoi.
À l'époque, c'était ça. Comme quand maintenant tu télécharges sur YouTube ou tu.
C'est vrai.
C'est pareil. Ou tu pourrais encore enregistrer la radio en mettant ton dictaphone.
Oui.
Ça marche
très bien. C'est un peu chelou de faire ça, mais why not?
Ouais. Ouais. Donc voilà.
Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, Élise?
Oui, avec
quel
plaisir.
Âge tu as, d'où tu viens, me donner un peu des infos sur toi.
Ok. Alors, j'ai toujours du mal à décrire ce que je fais dans la vie parce, ouais. que, parce que c'est. Beaucoup de choses. On va dire qu'en soi, j'essaye de participer au bonheur des femmes hypersensibles.
Trop bien.
Donc, je suis coach de vie. J'accompagne ce que j'appelle les HSW, c'est-à-dire les Highly Sensitive Women,
okay.
qui vient donc de l'acronyme Highly Sensitive Person.
Okay.
En France, on appelle ça l'hypersensibilité. Et c'est vrai que le mot américain décrit plus ce que c'est, puisqu'en fait, c'est de la haute sensibilité. Et donc, j'accompagne les femmes hypersensibles à apprendre à se connaître, à mieux vivre leurs émotions et surtout à prendre confiance en elles
okay.
pour vivre la vie qu'elles méritent, retrouver le sourire dans une société où la norme a été plutôt l'hyposensibilité.
Okay.
Et je fais ça sur... j'accompagne en francophonie, donc peu importe où tu vis.
Ouais.
Tant que tu parles français, on va pouvoir faire en sorte de connecter à tes émotions. Mais j'ai aussi une partie où j'adresse à la fois le cognitif, l'émotionnel dans le coaching, mais aussi l'aspect physique avec la danse pom-pom. où je suis spécialiste de la danse pom-pom en France, et j'ai des accompagnements à Paris, des événements à Paris, parce que ben, corps, âme, esprit, ouais, tout va ensemble. Et sur le travail de la confiance en soi, c'est vraiment des cours qui sont destinés, voilà, aux femmes qui ont envie de se reconnecter à leur corps, à leur féminité.
Et pourquoi tu as eu envie de faire ça?
C'est toute une histoire. Déjà, je danse depuis que je marche.
Ouais.
Et en fait, la danse m'a moi-même beaucoup aidée pour m'aider à développer ma confiance en moi.
Ouais.
Et j'ai toujours cruellement manqué de confiance en moi, en qui j'étais, en mon corps, en... dans mes relations aussi amoureuses.
Ouais.
Et en fait, ce manque de confiance en moi, je l'ai à la fois d'abord développé dans mes relations à l'école, puis ouais, dans mon rapport au corps à l'adolescence, et puis dans être à la hauteur en tant qu'adulte. C'était assez dur, okay, de se sentir suffisante, et surtout qu'au départ, je ne connaissais pas cette haute sensibilité, justement. Et quand j'ai pris conscience de ça, ça a été un point très important, très libérateur, qui m'a permis d'être plus heureuse et de combler aussi ce problème de manque de confiance et de tout ce que ça provoque dans tes relations pro, tes relations perso, ta famille, ton couple, etc. Et donc, en fait, c'est vrai que la danse m'a beaucoup aidée pour mon rapport au corps et pour aussi un peu m'affirmer, oser me montrer, être sur scène, toutes ces choses-là qui passent à travers ça. Aujourd'hui, je le fais d'ailleurs dans mes cours. Il y a un peu ce truc-là aussi d'accepter la présence du miroir, de se regarder en vidéo, ce genre de choses pour aller au-delà de l'image et de ce qu'on perçoit de nous et de se connecter à son corps. Et l'hypersensibilité, parce que ça, clairement, c'est quelque chose dont j'ai énormément souffert, particulièrement adolescente, parce que je pense que petite fille, c'est quelque chose qui était... La sensibilité chez les enfants est acceptée, mais pas en grandissant. Et en fait, on me disait que j'étais trop sensible, trop empathique, et je pensais que j'avais un problème, en fait. Mais vraiment un problème médical, que ce soit en termes de sensibilité sensitive. Je me souviens avoir consulté un médecin pour mon audition, faire un test d'audition, en disant « mais j'ai un problème, c'est pas possible ». Et en fait, il me dit « mais non, vous entendez très bien ». Mais en fait, j'entendais trop bien, entre guillemets, et j'ai pas été accompagnée sur ça. Mm. Je l'ai découvert beaucoup plus tard.
Parce que ça, tu peux être accompagnée ?
Je pense qu'aujourd'hui, dans la médecine, on est capable de dire « voilà, vous avez une très bonne audition ». Et en fait, les gens qui découvrent leur hypersensibilité découvrent aussi ces sensibilités des cinq sens. Alors, pas forcément les cinq, mais moi, j'ai une sensibilité auditive.
Ouais.
J'ai ces hyperacousies où je suis très sensible à certains bruits. J'ai besoin de beaucoup de silence. Et vraiment, le bruit me fatigue énormément. Et en fait, j'ai pu diminuer, par exemple, mes migraines juste en réduisant le bruit dans ma vie.
Mm.
Et ça, en fait, on m'en avait jamais parlé. C'est que quand j'ai découvert mon hypersensibilité, de par d'autres choses aussi, de par une très grande émotivité, aussi bien positive que négative, c'est-à-dire que je suis l'optimisme incarné et le défaitisme incarné selon les journées. Mais quand tu me côtoies, je suis une fille pleine de positivité. Et en même temps, tu peux avoir ce torrent d'émotions, ce tsunami d'émotions à l'intérieur qui crée beaucoup d'anxiété, etc. Et le mental qui tourne en permanence et où je pensais que tout le monde était comme ça.
Bah oui.
Donc, et en même temps, tout le monde était comme ça. Et en même temps, j'avais l'impression que j'avais quand même un problème. C'est-à-dire, je me disais, si tout le monde a la même sensibilité et que tout le monde fonctionne pareil, c'est juste que moi, je n'arrive pas à le gérer comme il faut.
Mmh.
Et en fait, j'ai découvert beaucoup plus tard que non. C'est que juste déjà, tout le monde n'a pas les mêmes sensibilités. Et donc forcément, les gens ne le gèrent pas de la même façon. Et c'est ce qui m'a amenée à vouloir faire ça parce que dans ce que j'ai proposé, j'ai commencé à aider des femmes de plus en plus. Puis des femmes qui se sont reconnues dans mon parcours. Et finalement, tout a convergé vers ça, parce que moi-même, j'ai vécu une année noire en 2013 qui a été dramatique dans ma vie et qui a été le moment où je me suis dit, en fait, je peux pas avoir, à l'époque, j'avais 25 ans, je peux pas avoir 25 ans et être alitée, avoir fait tout ce qu'il fallait pour être une bonne fille, être quelqu'un de bien, être gentille, tourner vers les autres et souffrir autant, c'était pas possible. Et donc, mon corps me parlait très fort, j'avais dû appeler le SAMU, j'ai fait 3 mois d'arrêt maladie et j'étais malheureuse, je me sentais pas à ma place dans mon boulot, bref, il a fallu tout que j'envoie valser. Sauf l'amour. Mais c'était la prise de conscience. Et en fait, à travers la danse, qui était déjà une danse bien-être, confiance en soi, finalement, j'ai accompagné des femmes qui m'ont dit « Mais tu m'aides énormément plus que la danse. Tu m'as aidé à reconnecter à ma féminité, à prendre confiance en moi. » Et c'est là où on a commencé à me dire « Mais en fait, ce que tu fais, c'est pas que de la danse. » Et c'est là où en fait, j'ai commencé à créer un programme d'accompagnement pour tester, voir qu'est-ce qu'il en disait. Et c'est comme ça que je suis devenue coach aussi maintenant, spécialisée dans l'accompagnement des hypersensibles.
Trop bien.
Et je continue à développer ça. Et peut-être que si on se revoit, on s'était vu, je ne sais pas quand est-ce que c'était la dernière fois, il y a peut-être 5 ans.
5 ans, je pense.
Peut-être qu'on se reverra dans 5 ans et qu'il y aura encore autre chose.
Ouais.
Parce que ce qui compte, c'est juste la mission, finalement. C'est-à-dire que quand j'étais jeune et que j'étais si mal, on m'a dit « mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ?» J'avais répondu « un métier positif ». Et je crois que c'est ça. En fait, juste ce que je veux, c'est transmettre cette positivité, aider les gens à être plus heureux. Et j'aurai fini que quand tout le monde sera heureux. Donc, j'ai encore un peu de taf. Mais...
et tu le crées, ton métier. Tu le crées.
Exactement.
Ces métiers au fil des années aussi, au fur et à mesure. Avec toute l'histoire que tu es en train de vivre aussi personnellement, j'imagine, tu vois, il y a des choses comme ça que tu crées à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans qui vont complètement changer. Et ça, c'est chouette aussi.
Et c'est ce que j'aime, c'est que quand je traverse quelque chose, aussi dur soit-il, je sais que ça va profiter à quelqu'un et que ça va être un raccourci pour quelqu'un d'autre. Ce qui est long et difficile pour moi sera un raccourci pour quelqu'un d'autre. Et ça m'enthousiasme à fond. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que peut-être que dans 5 ans, il y aura encore un troisième média, il y aura peut-être des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui et où on pourra accompagner d'une autre façon, où on pourra aider d'une autre façon.
Trop bien.
Et ça, c'est là où j'en suis et c'est ce qui m'a menée là.
Trop cool. On est là pour parler d'amour aujourd'hui.
Oui.
Élise, est-ce que tu peux me définir ton rapport à l'amour?
Je pense que j'ai un rapport à l'amour prioritaire. Je ne sais pas si on peut dire ça.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que je pense que si tu m'avais interviewé tous les 5 ans avant ça... ma valeur numéro un dans la vie, c'est l'amour.
Ok.
Ça a été toujours pour moi un besoin parmi mes besoins fondamentaux. On parle des fois de la pyramide de Maslow, qui est avec les besoins de sécurité, puis les besoins affectifs, etc. Et c'est comme si moi, l'amour était aussi important que de me nourrir en alimentaire et tout ça. Enfin, j'ai autant besoin d'amour que de nourriture. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, était vital.
Pourquoi tu penses que c'était vital? Enfin, que c'est toujours vital, d'ailleurs.
Ouais, je...
Est-ce que t'as grandi dans une famille où c'était important? Tu vois, peut-être l'histoire de tes parents
Oui, c'est une bonne question. Je pense que ça peut venir un peu de mon hypersensibilité, malgré tout.
Ouais.
Parce que j'ai une très haute empathie. Et j'ai ce besoin de connexion aux autres, qui peut avoir aussi un versant un peu négatif au départ, parce que j'avais un peu ce syndrome du sauveur.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en plus, pour moi, aimer, c'était un peu guérir et c'était un peu sauver les gens, etc. J'ai changé ça au fur et à mesure. Mais je pense qu'au départ, j'avais déjà cette envie d'aider l'humanité. Et finalement, ce qui n'a pas changé, c'est que mes méthodes de coaching, c'est de l'amour.
Ouais.
Et en fait, ce que je donne, c'est de l'amour. Et donc, c'est pour ça que si tu me dis d'où ça vient, je ne sais pas, parce que pour moi, c'est tellement c'est le fondement de tout, pour moi, dans la vie et dans cet univers. Et je pense que si tout le monde avait... de l'amour dans sa vie, le monde ne ressemblerait pas à ça. Je pense que si tout le monde avait de l'amour, tout le monde serait heureux et il y aurait un univers beaucoup plus bienveillant. Donc, je ne vois pas d'histoire familiale particulière ou d'événements traumatiques qui auraient rendu ça, parce que j'ai l'impression que ça a été très tôt le cas. L'amour, c'est marrant, je pourrais te montrer, mais j'ai une photo dans l'album de famille où déjà, en me baladant dans un musée, il y avait un petit garçon, mais qui avait peut-être 2-3 ans de plus que moi. Et en fait, j'ai décidé que c'était mon copain. Donc, je suis allée le voir, je lui ai regardé, je lui ai pris la main et je l'ai baladé pendant tout le truc. Et j'ai une photo qu'on adore dans la famille où j'ai 3 ans et il y a un petit garçon de 5-6 ans avec moi. Et apparemment, je ne lui ai pas demandé son avis, mais il avait l'air d'accord.
Ouais.
Et donc, on s'est baladé tout le temps. Et donc déjà, si tu veux, même à 3 ans, j'avais cet amour des autres et tout ça. Effectivement, peut-être dans la relation avec mes parents, j'ai pas des parents qui n'étaient pas fusionnels, qui sont ensemble, mais qui n'ont pas été fusionnels. Et je pense que du coup, il y avait aussi cette envie de mettre encore plus d'amour dans ma vie.
Ouais.
Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait eu que ça a été énormément... que c'est énormément impacté, mon rapport à l'amour.
Est-ce que tu peux me parler de ton parcours amoureux depuis que... Tu as peut-être pas 3 ans, mais depuis que tu es jeune fille.
Non, mais tu vois, ce qui est rigolo, c'est que par contre, déjà à 3 ans ou 4 ans, ce que je voulais, c'était me déguiser en mariée. Et donc, j'ai une photo, j'ai mon petit amoureux de primaire à 3-4 ans.
Okay.
Alors, évidemment, il n'y avait absolument rien. Mais déjà, je me souviens qu'au primaire, l'amour était déjà un sujet pour moi. Et mais, c'est ça que je trouve fou.
3-4 ans, c'est en maternelle,
non? Ouais, en maternelle, ouais.
Okay.
En maternelle, après tout début primaire. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, même les événements positifs ou négatifs, d'ailleurs, que j'ai pu vivre déjà au primaire, à l'école primaire, dans ma tête, c'était toujours aussi un peu dans cette envie d'être avec les autres ou les prémices de ce qui se passait en termes de séduction et tout ça. Après, en termes de parcours, ça a commencé après, entre le primaire et le collège, l'été, entre le CM2 et la 6e, j'ai eu mon premier bisou.
Ouais.
Et c'est vrai que déjà, c'était quelque chose de super important pour moi. En 6e, j'ai eu mon premier vrai petit copain et ça a duré 2 ans. Donc déjà, c'est vrai que pour te dire à quel point c'était important pour moi, c'est que c'était un envie, mais c'était quelque chose de naturel, si tu veux. Je le cultivais pas comme un objectif, mais juste, il se trouve que dans ma vie, ça a toujours été hyper important et plus important que pas mal de choses. Et c'est vrai que donc, du coup, en sixième, je suis restée 2 ans avec un petit copain.
Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir d'être en couple en sixième? Qu'est-ce que ça a représenté pour toi?
Ça, c'est marrant. Je me souviens pas beaucoup. J'ai un cerveau, en plus, qui élimine pas mal quand... ça me sert plus. Ouais. Donc c'est vrai que des fois je trouve ça triste de me dire mais tous ces moments avec des gens que j'ai oubliés et même des moments positifs. Je me souviens juste avoir envie de faire plaisir pour son anniversaire, me prendre la tête à qu'est-ce que je vais acheter. Et j'avais dû acheter un espèce de caleçon Simpson avec des cœurs, enfin un truc horrible quand j'y pense. Mais ça, et je pense que c'était le plaisir de partager le quotidien. C'est vrai que moi, je n'attendais pas un amour où on allait faire des trucs extraordinaires et tout ça.
De toute façon, tu n'as pas trop la possibilité en sixième. Quoi.
Complètement. Ouais. Mais c'est vrai que déjà, à la base, je pense que c'était le plaisir de partager mon quotidien, de tout se raconter, de pouvoir rentrer dans l'intimité, des sentiments, tout ça. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça a apporté de plus, mais je pense qu'aussi le rapprochement physique, malgré tout. Parce que j'allais dire, qu'est-ce que ça apporte de plus qu'une amitié? Oui, parce que déjà, à l'époque, on se faisait des bisous, on se prenait dans les bras. Et alors moi, je suis un espèce de pot de colle. Et je pense qu'effectivement, tu vois, typiquement, moi, j'ai une maman qui est hyposensible. Et donc, du coup, toute mon enfance, je lui demandais tout le temps de me faire des câlins, des bisous, de me dire je t'aime et tout ça. Et qui pour elle, de son époque en plus, parce qu'on a une grande différence d'âge, c'était bizarre, il n'y avait pas besoin. Donc oui, je pense qu'il y avait déjà ce dont je me souviens, c'est cette affection qui est vraiment qui apporte beaucoup de choses, et aussi le partage du quotidien de petites choses, un peu le plaisir de la routine, quoi.
C'est marrant quand même, parce que 2 ans, c'est assez long.
Mais ouais,
tu vois, sixième, du coup tu as fait sixième, cinquième, quatrième avec ce garçon. Tu gardes contact avec lui?
Non, pas du tout. J'ai pas beaucoup, j'ai quasiment pas d'ex avec qui j'ai gardé contact. Très peu. Mais ce serait très rigolo de se revoir. Je sais pas du tout ce que ça donnerait, mais ce serait très rigolo. Mais c'est vrai que tu vois, même après, il y avait pas mal d'histoires courtes qui se sont enchaînées. Et je sais pas, dans mon souvenir, c'était quand même malgré tout déjà intense à l'époque. Parce que, je sais pas, ça prend toute ton énergie, ton attention, ton focus. Et donc oui, voilà, après de quatrième, troisième, il y a eu pas mal de petites histoires aussi. Et puis, ce que j'appelle le premier amour, donc c'est aussi la première personne avec qui tu couches, en seconde, là pour moi c'était un coup de foudre, une espèce d'évidence, tout ça, alors que tout le monde me disait de pas sortir avec ce mec-là.
Et c'était un coup de foudre de son côté également?
C'était vraiment une attirance mutuelle, et c'est marrant parce que là, pour le coup, tu as des images aussi de choses qui t'ont marqué, d'événements qui sont marqués. Et effectivement, c'était une évidence alors que rien n'était fait pour qu'on se mette ensemble.
Pourquoi on te disait de ne pas sortir avec lui?
Parce que c'était un connard. et effectivement, la suite n'a pas manqué. Et il le sait bien, parce que pour le coup, on en a reparlé même après et tout ça. Et il sait très bien qu'il a chié, quoi. Mais oui, parce qu'il avait très mauvaise réputation sur comment il traitait les filles et comment il était... Enfin, oui, du coup, c'était pas quelqu'un de confiance.
T'es restée avec lui longtemps ?
Et je suis pas restée avec lui tant que ça. Enfin, dans ma vie d'adulte, dire ça, je trouve ça ridicule. On est restés ensemble 4 mois, je crois, quelque chose comme ça. En fait, il y a eu 4 mois, on s'est séparés, après on s'est remis ensemble quelques mois. Mais si tu veux, en termes d'impact de ce que ça a eu dans ma relation amoureuse... Franchement, en termes de relation adulte, ça vaudrait une relation d'un an ou deux. Tellement ça a été intense. Bah forcément, déjà, c'est la première personne avec qui tu couches. Donc, émotionnellement, c'est hyper intense. Et puis, c'était la première fois que j'étais amoureuse comme ça. Et en plus, comme tu le disais, au collège, tu peux rien faire. Tu décides pas de quand tu vois la personne, machin. C'est les anniversaires, c'est au collège, tout ça. Là, tu commences à avoir une vie où tu peux être indépendant, où tu peux sortir entre midi et deux, où tu peux te voir après les cours, et ils commencent à avoir des vraies relations. En plus, c'est l'époque où on a commencé à avoir des téléphones portables. Donc, on passait des nuits au téléphone. Et c'est la première fois où vraiment, je me suis dit, ah, incroyable. Et je pense que j'avais déjà un peu ce syndrome du sauveur à l'époque. Justement, tu vois, c'était pas un bon garçon, mais quand il était avec moi, il était super. Et alors ça, l'ego, il adore. Tu vois, c'est le gars, par exemple, qui... Moi, j'étais en seconde à l'époque, et c'était un lycée qui avait collège-lycée. Et donc, lui avait redoublé, il était en troisième. Et donc, forcément, s'il a redoublé, tu te doutes bien que c'était quelqu'un qui n'était pas au top niveau études. Et forcément, qui avait aussi des difficultés avec ses parents et tout ça. Il y avait des relations un peu tendues. Et moi, j'arrivais là-dedans, Et à partir du moment où il était avec moi, il a commencé à avoir des bonnes notes. Mmh. Puis ça se passait mieux avec ses parents et tout. Et alors là, t'as envie de sauver la personne jusqu'au bout. Mmh. Tu dis, grâce à moi, elle va aller mieux. Et voilà. Et ça, je pense que ça, c'est déjà, c'était un peu malsain.
Tu te rendais compte de ça à l'époque ?
Pas du tout.
Ouais, c'est ça.
Pas du tout. Et puis après, il y a eu des moments qui étaient aussi hyper difficiles à vivre. Et pourtant, quand je me dis qu'il s'est passé ça en 3 mois, du chantage affectif, des choses comme ça, des moments où je me sentais finalement pas du tout en confiance, mmh. jusqu'à ce que j'apprenne qu'il m'est trompée. Mmh. Et là, j'avais 15 ans, peut-être 16, comme ça. Là, tu tombes de haut. Quand déjà, t'as pas spécialement confiance en toi, c'est hyper violent.
Comment tu l'as appris ?
Je ne m'en souviens plus. Je sais plus du tout comment je l'ai appris. Je crois que c'est la fille avec qui il a couché, qui était une pote.
Oui.
À l'époque.
Qui tu me l'a bien dit, préciser à l'époque.
À l'époque. je ne sais plus comment je l'ai su. Je me souviens juste lui avoir mis la tête à l'envers quand je l'ai appris. Mais... Ouais. Et en plus, si tu veux, donc j'ai appris qu'il avait, donc quand je dis qu'il m'a trompé, il a couché avec quelqu'un.
Ouais, ouais.
Voilà. J'ai appris que globalement, il y a peut-être eu aussi d'autres choses que coucher avec d'autres nanas. Donc en 3 mois, c'est court pour te dire que tu vaux quelque chose. Mmh. Surtout quand tu couches avec la personne et où tu as l'impression de donner un truc super important et de vivre des moments hyper forts.
Oui, là, c'est ta première vraie histoire, quoi.
Ouais. Et puis, c'est une pote.
Ouais, grave.
Donc, alors, c'était pas ma meilleure amie, mais c'était quelqu'un avec qui je traînais vraiment beaucoup à cette époque-là. Donc, j'ai rien compris. Je me suis retrouvée la tête sous l'eau. J'ai absolument rien compris. Du coup, j'ai arrêté la relation. Et effectivement, j'ai une de mes meilleures amies d'enfance qu'il avait dû voir une fois. Apparemment, qu'il avait essayé de contacter aussi pour sortir avec elle et tout. Enfin, mais le cauchemar. Mmh. Le cauchemar. Et alors, ça m'a détruite, quoi. Ça a détruit ma confiance en moi, qui était effectivement déjà pas géniale. Et ça s'est retranscrit sur mon corps, puisque après ça, je suis tombée à 37 kilos. Donc, pour quand t'as 16 ans, 37 kilos, 1m60, c'est pas gros. Mmh. Donc, c'était pas de l'anorexie mentale. Très souvent, maintenant, quand j'en parle, j'aime bien préciser parce que c'est important qu'on voit la différence. Ça m'a provoqué une période d'anorexie.
Ok. Tu peux peut-être expliquer où est l'anorexie mentale, ce que c'est.
La différence entre l'anorexie et l'anorexie mentale, c'est que l'anorexie mentale, c'est le but est de maigrir. C'est la maladie psychologique qui te donne envie de changer de corps et de maigrir parce que tu vois ton corps d'une certaine façon. D'ailleurs, des fois, souvent, tu le vois beaucoup plus gros que ce qu'il n'est. Mmh. Il y a une forme de déformation. Mmh. Et donc, ton objectif, c'est de maigrir.
Ouais.
Tu veux maigrir. Donc, il y a des stratagèmes qui sont mis en place par les personnes anorexiques mentales, comme le fait de moins manger volontairement, de boire beaucoup d'eau, voire pire, etc., qui font que... Et l'engrenage se fait... qui fait qu'après, ça devient difficile d'en sortir. Alors que moi, j'ai fait une période d'anorexie, au sens où je ne voulais pas spécialement maigrir, mais où j'ai beaucoup maigri. Mmh. C'est-à-dire, j'étais tellement triste, tellement dévastée, que j'ai perdu l'appétit. Et là, c'est marrant parce qu'avec le recul, je ne sais même pas si j'ai déjà mis les mots sur ça, mais évidemment qu'il y a un lien avec cette très grande sensibilité, cette grande émotivité, c'est-à-dire où la tristesse, elle était tellement forte que ça s'est impacté sur mon corps. Et puis donc sur mes pensées, qui elles-mêmes ont généré de nouvelles émotions négatives, etc. Et donc ça crée une boucle qui fait qu'en fait, j'ai juste complètement perdu l'appétit.
Okay.
Et donc c'est là où j'ai vécu cette période d'anorexie et où je suis tombée effectivement à 37. Et puis t'es au lycée, donc tout le monde te dit un peu que t'es maigre. Qu'il faut...
et puis t'as aussi le truc du lycée, je sais pas si toi c'était le cas, mais souvent où ton histoire de couple avec un tel ou une telle, tout le monde la connaît, quoi. Mmh. Tout le monde connaît tous les secrets et tout. Donc peut-être que pour toi, c'était le cas aussi, s'il y avait la pote, le machin. Enfin, ça devait être compliqué à ce niveau, peut-être.
Ouais, il y avait un peu ce truc-là, tu sais, de « on te l'avait dit, que c'est un connard
».
Tu vois, et ça, c'est terrible parce qu'en même temps, moi, j'ai vu une facette de lui qui n'était pas un connard.
Oui.
C'est-à-dire qu'avec du recul, et si peut-être que s'il écoute ce podcast un jour, je pense aussi qu'avec ma casquette de coach et tout le développement personnel que j'ai fait aujourd'hui, je sais très bien que ce mec-là, s'il se comportait comme ça à l'époque, c'est aussi qu'il faut regarder la personne dans sa globalité. Mmh. C'est-à-dire que le gars, il avait une relation avec ses parents qui était terrible, il a aussi vécu des traumatismes, qu'il essayait d'exister, et que, je sais pas, peut-être qu'il a aussi une méconnaissance de sa propre libido, de son besoin de, tu vois, de... peut-être des mecs qui ont des libidos aussi très très fortes et qui ont du coup cette difficulté à attirer à gérer leur attirance, etc. Ça n'excuse pas les faits, hein. C'est-à-dire ça n'excuse pas le fait qu'il m'ait trompé et qu'il m'ait traité comme de la merde. Ça, c'est pas le problème. Mais... si tu veux, je pense qu'aussi, si on se connaissait tous mieux et qu'on n'avait pas eu des traumatismes et qu'on n'avait pas eu tout ça, y a plein de choses qui se passeraient différemment.
Après, c'est complètement vrai ce que tu dis, mais là, tu as le recul aussi pour en parler. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est hyper compliqué.
Oui, et puis c'est facile de dire ça quand tu es heureuse en couple et que tu vas bien et que tu t'en es sortie. Mmh. Je veux dire, jamais je pourrais te dire ça si j'avais été célibataire en enchaînant que les connards de Tinder et ce genre de trucs. Mmh. Je pense qu'aussi, ça fait du bien de pouvoir se dire ça quand tu as trouvé la paix, as trouvé l'amour. Et du coup, tu peux regarder ça avec de la bienveillance en te disant...
Bien sûr.
Ouais, le pauvre, quoi. Au peu cher, comme on peut dire ici. C'est, oui, ça me faisait de la peine parce que je me dis qu'en fait, c'est quelqu'un qui, en fait, aurait pu être super heureux avec moi et qui l'a été par intermittence et qui, après, a pas su gérer le truc, a pas su gérer les émotions, a pas su gérer, je sais pas, les tentations, tout ce que tu veux.
Comment t'as fait, toi, pour t'en remettre ?
Ça, c'est une bonne question. Il y a une première passade qui a été de se donner le droit d'être triste. C'est-à-dire, cette période d'anorexie, ça a été aussi la catharsis de ce que j'avais besoin de vivre, qui a été nécessaire pour se relever après. Donc, se donner le droit d'accueillir l'émotion et de la vivre. Et c'était une période de merde. Voilà. Je pense que ce qui a été pas mal, ça a été que justement, cette histoire, c'est la seconde. Donc, du coup, après, on s'est quitté pendant l'été. Bon, j'étais avec des copines et tout ça, et j'étais entourée de copines, donc c'était très bien aussi. Et surtout, après, tu reprends le lycée. Et je pense que du coup... Bah après, t'es obligé, t'y vas, tu fais des cours, t'as d'autres potes, tu rencontres d'autres personnes et tout ça. Et donc, ça t'aide un peu à te remettre dans le bain. Et en fait, comment je m'en suis sortie ? Vous allez être surprise par la réponse, mais je m'en suis sortie en ressortant avec.
Ah oui ?
Et oui.
Ok.
Et en fait, je me suis remise avec lui parce que je ne sais plus vraiment exactement comment ça s'est passé. Mais finalement, en janvier de l'année suivante, on s'était re-rapprochés.
Ouais.
Et je me suis remise avec lui le temps de... Je me souviens, j'avais passé la nuit de l'an avec lui et tout le lendemain, la journée. Et c'était pour moi le scénario idéal. Comme dans le film, c'est-à-dire qu'on avait passé la soirée, on avait fait que rire, on avait dormi dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain, on avait fait du roller à l'Escalborelli sous un temps magnifique, en famille avec sa petite sœur et sa mère. Et en fait, j'ai passé les journées parfaites. Et à la fin de cette journée parfaite, je me suis dit, mais j'ai pas confiance en lui. Et en fait, ça a été le déclic. C'est-à-dire que, en fait, même si tout va bien, il récupérera jamais quelque chose qui était ultra précieux. Et c'est comme ça que je m'en suis sortie. C'est en me disant, mais en fait, je peux pas avoir de l'amour sans avoir de la confiance.
Oui. Et tu parles de confiance par rapport au fait qu'il t'ait trompé.
Exactement. Okay. Et en fait, du coup, j'avais plus confiance en lui. Ouais. Et je savais très bien que... Et pourtant, à cette époque-là, il avait sûrement passé quelques mois à être irréprochable. Et j'ai rien appris a posteriori non plus, etc. Oui. Et donc, il a sûrement été irréprochable à cette époque-là, mais c'était perdu.
Ouais.
Donc, en fait, je pense qu'il y a un vrai sujet. Et c'est marrant parce que, comme ces épisodes de podcast, ils peuvent être aussi thérapeutiques. Parce que moi aussi, je m'entends dire à quel point l'amour n'existe chez moi qu'avec de la confiance. Et je trouve ça marrant quand tu sais tout le travail que je fais sur la confiance en soi pour moi et pour les autres. Donc, oui, effectivement, en fait, ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est de me rendre compte que j'aurais jamais ce que je voulais.
Ouais.
Qui fait que pour moi, l'amour sans confiance, c'est pas de l'amour.
Avec lui, ouais.
Donc, j'ai pu passer à autre chose à ce moment-là.
Okay.
Et j'ai enchaîné avec une autre relation qui, pour le coup, était un ami. Et avec lui, ça a duré 3 ans, à peu près. Alors, on s'est séparés, on s'est remis ensemble plusieurs fois. Ouais, il y a des périodes où, du coup, les ex chez moi, c'est souvent revenu. Okay. Parce que ce mec-là, il y a quand même eu un épisode de... Alors, est-ce que je dis vraiment tout ? Je raconte tout. Donc, du coup, après avoir eu cette prise de conscience... Je suis sortie avec quelqu'un qui était plutôt comme mon meilleur ami, avec qui j'étais très proche, avec qui il était en classe avec moi, et que j'aimais beaucoup. On est sortis ensemble quelques mois. Après, on s'est séparés. On est ressortis ensemble jusqu'à se séparer à nouveau et où j'ai fait 6 mois de grand célibat.
Qu'est-ce que tu veux t'entends par là ?
Le grand célibat, c'est que c'est la seule et unique période de ma vie, ces fameux 6 mois où je me suis séparée de ce mec avec qui j'étais. Où pour le coup je cherchais pas de longue relation et où je me prenais pas la tête à ce moment-là et j'avais plus envie de rien en fait de spécial.
Mais tu penses que tu cherchais à chaque fois des longues relations ?
Enfin, c'est pas que je le cherchais, c'est que c'était intuitif. C'est-à-dire que pour moi j'ai toujours tellement aimé les relations du quotidien. Si tu veux vraiment, j'adore ça, être avec la personne au quotidien, faire des choses. Tu vois, je te parlais de la sortie en roller, c'était vraiment le truc pour moi de base qui me faisait rêver. Voilà, on va faire une activité où on se voit en cours, on rigole, où on va faire autre chose. Ça, c'est vraiment des moments que j'adore. Et donc, du coup, je ne cherche pas la longue relation, mais c'est ce que je préférais et c'est ce qui faisait que ça se terminait toujours un peu comme ça, en fait. Mais du coup, on s'est séparés, on s'est remis ensemble, on s'est séparés. Et donc, il y a eu 6 mois où finalement, j'ai décidé que ces 6 mois-là, c'était... Je cherchais plus rien. En fait, j'avais plus spécialement envie d'être en couple à ce moment-là. Et j'ai un peu enchaîné quelques relations comme ça, de très courte durée. Et c'est la première fois de ma vie.
Ouais.
J'étais en prépa à l'époque. Et donc, pendant cette année de prépa, ces 6 mois, voilà, je me suis bien amusée. Ouais. Et donc, il y a eu aussi un retour de l'ex le temps d'une soirée, ce genre de choses. Mais c'est marrant, ces 6 mois-là m'ont aussi fait comprendre que, en fait, tout ça, c'était pas pour moi. Il n'y a pas eu beaucoup de coups d'un soir, hein, mais juste des relations de des fois quelques semaines, des fois une soirée, des fois ce genre de choses.
Et pourquoi tu dis que ce n'était pas pour toi?
Bah, ça ne m'a pas éclaté, quoi.
Ouais.
Vraiment.
Parce que tu étais déçue, tu attendais d'autres choses ou...
Non, en fait, c'est vrai que ça s'est fait comme ça. Toujours pareil, je n'ai jamais cherché spécialement. C'est juste que ben, tu rencontres beaucoup de gens et puis j'adore rencontrer les gens. Et puis tu fais des soirées et puis ça se fait naturellement. Ouais. Et c'est vrai que je pense que j'aime séduire. Et j'aime être séduite, j'aime ces relations homme-femme et tout ça, ça me plaît beaucoup. Et donc du coup, ben, j'ai eu l'occasion de m'amuser avec pas mal de mecs à ce moment-là. Voire de gars avec qui je me suis dit ça aurait pu être des relations, mais ça s'est pas fait. Mais simplement, je me suis rendu compte qu'en tout cas, j'aurais pas pu être une nana qui enchaîne. Parce que pour le coup, j'ai des amis où le début, ça les fait vibrer.
Ouais.
Tu vois, où vraiment... la sensation du couple, la tension du début, le moment où tu te cherches. Je sais qu'il y a pas mal de nanas, et dans mes coachés, c'est aussi souvent quelque chose qui revient, cette envie de la flamme du début, de la tension du début, du suspense et tout. Moi, c'est pas du tout mon délire. Moi, j'adore quand tu te connais à fond et que du coup, t'en profites. C'est pour ça que vraiment, c'est là où je me suis dit, ouais, non, c'est pas un truc qui m'éclatait, en fait.
Okay.
Donc, c'est vrai que je sais qu'il faut passer par là pour avoir ce que je veux. Mais c'est pour ça que j'ai jamais regretté d'avoir été en couple tôt ou longtemps.
Ouais.
Parce que je m'éclate dans un couple qui
dure. C'est ce que t'aimes.
Plus que le début. Ouais.
Ouais.
J'ai pas cet amour de la flamme du début, quoi. C'est cool.
Oui.
Mais quand c'est avec. Mais à chaque fois que j'ai adoré le début, c'est parce que derrière il y avait une longue histoire.
Oui.
Sinon, pas de rien de spécial.
Tu savais qu'après il se passait vraiment quelque chose et que ça allait durer.
Exactement.
Okay. Voilà.
Et puis comme du coup je suis jamais sortie avec, par exemple quand je te disais il n'y a pas eu beaucoup de coups d'un soir, il y a eu des gars où ça a duré un jour ou deux, voilà, mais c'est toujours été des gens que je connaissais.
Ok.
J'ai jamais été dans une boîte et sortie avec un mec, voilà, tout ça.
Inconnu.
Ça... Ouais, ouais, pareil, l'aspect inconnu, la personne que je reverrai jamais, ça me fait pas du tout triper. Il faut quand même que je connaisse la personne, que j'ai tissé du lien.
Ouais.
Voilà, ça c'était des choses aussi assez importantes pour moi.
Et donc après ces 6 mois.
Donc après ces 6 mois, on est ressorti un petit peu ensemble avec
ce fameux
jeune homme. Mais autant te dire que quand tu te sépares autant et qu'il y a toujours un truc qui ne va pas, même s'il y a eu des événements de vie qui ont fait que tout était plus ou moins difficile, je pense aussi que j'avais ma responsabilité dans cet échec de relation parce que justement, je n'avais pas confiance en moi, que je n'écoutais pas ce que je voulais vraiment, que je n'exprimais pas ce qui n'allait pas et que je n'exprimais pas ce que je voulais vraiment, etc.
Okay.
Mais donc, du coup, autant te dire que cette relation, ça n'a pas marché. Donc, je suis quand même ressortie avec lui quelques mois. Et puis, on s'est séparés quand je suis rentrée en école de commerce. Et donc, en école de commerce, j'ai eu le coup de foudre. Le deuxième, j'en ai eu deux dans ma vie.
Ouais.
Mon fameux premier amour et l'homme avec qui je suis aujourd'hui.
Ouais.
Et je ne peux pas t'expliquer. Je l'ai vu, je l'ai trouvé beau. Il y avait une énergie, il y avait un truc. Et puis, dès qu'on s'est parlé, il était drôle, il était intelligent... Enfin, puis très vite, le contact s'est fait. On a eu des références en commun. On rigolait beaucoup. Et donc, j'ai rencontré cet homme-là pendant ma première année d'école de commerce. Il était dans la même école, mais un an supérieur et dans la partie ingénieur.
Okay.
Je ne sais pas si ces détails servent à quelque chose. Mais bon, du coup, voilà. Et donc, je l'ai rencontré à ce moment-là. Et ça fait 13 ans.
Donc, tu avais quel âge à l'époque ?
J'avais 20 ans.
T'avais 20 ans.
Alors, il y a quand même une histoire, et je pense que là, on est là pour parler d'amour, donc autant être transparent, et c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup partagé sur mes réseaux sociaux, mais il y a eu 3 mois où on est sortis ensemble au départ.
Ouais.
Et j'étais pas moi-même, parce que je voulais pas me montrer aussi sensible que je le suis.
Mmh.
Et aussi parce que je sortais de toutes ces longues relations, finalement, qui avaient capoté, à un moment ou un autre. Il faut savoir que quand je me suis séparée de donc, la personne avec qui j'étais juste avant, donc j'étais avec cette personne en rentrant en école de commerce. Et puis je lui ai dit que ça allait pas, que j'avais rencontré quelqu'un qui me plaisait énormément, Et quand je lui ai dit ça, lui m'a dit, bah, c'est pas grave, de toute façon, moi, je t'ai trompé, on peut continuer ensemble. Je lui ai dit, mais quoi ? C'est quoi cette blague ? Et en fait, j'ai jamais su si c'était vrai ou pas, ou s'il avait dit ça en mode un partout, ballon centre, on reste ensemble.
Ouais.
Et en fait, pour moi, c'était de toute façon fini. Donc, du coup, je me suis mise avec la personne avec qui je suis aujourd'hui. Et donc, dans cette histoire, ce qui est assez important, c'est qu'on est d'abord sortis ensemble 3 mois. Il m'a quittée. Et on s'est remis ensemble. Et donc, on ne compte qu'à partir du moment où on s'est remis ensemble.
Et tu t'es remis ensemble. Vous êtes remis ensemble longtemps après ?
On s'est remis ensemble en début 2019. 2009, pardon. On s'est remis ensemble début 2009. Et donc, ça fera 14 ans bientôt.
Ok. Et pourquoi vous vous êtes quittés quelques temps ?
Donc, en fait, ce qui était intéressant, c'est quand je l'ai rencontré et que je sortais de plusieurs longues relations qui avaient capoté.
Ouais.
Et dont une fois où j'étais sûre que j'avais été largement trompée.
Mmh.
Et une autre où, franchement, ça a été des hauts, des bas. Et en fait, j'ai jamais vraiment su s'il avait été clean à la fin. Et où ça me surprenait encore plus parce que, pour le coup, lui, c'était quelqu'un de bien, on va dire.
Ouais.
Donc, j'étais encore plus surprise. Donc, si tu veux, j'arrive sur cet homme pour qui j'ai eu un coup de foudre, en me disant, je ne serai jamais à la hauteur.
Mmh.
Donc, du coup, j'essaye d'être la femme parfaite, telle que moi, je pense qu'il faut l'être. Donc, ça veut dire masquer ma sensibilité.
Ouais.
Ça veut dire être tir à quatre épingles tout le temps et enlever une partie de mon côté femme-enfant, enlever ce côté un peu pot de colle qui fait partie de moi quand je suis en couple, etc. Et donc, j'essaye d'être une nana comme dans les films.
Ouais.
Tu vois, la nana sensible, mais pas trop.
Toujours pas trop, de toute façon.
Voilà, toujours pas trop, mais toujours pas assez. Enfin bref, on sait jamais comment se positionner, c'est chiant. Et donc du coup, voilà, j'essaye d'être toujours au top de ma forme. Ah oui, un élément qui va peut-être parler à certaines, le soir, je me démaquille pas.
Ok.
Pour que le matin, il me voit à peu près. Je me souviens des fois, je me réveillais, j'allais enlever le noir dessous qui avait coulé pour être un peu clean. Et je revenais dans le lit, enfin voilà, ce genre de truc.
Et en même temps, 20 ans, enfin tu vois, ça m'étonne pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu peux faire à cet âge-là. Enfin, tu vois,
je sais pas s'il y a un âge pour ça. Pour moi, c'est un truc de confiance. Je pense que autant tu as des filles qui, à 18 ans, ont vécu des trucs et se sont dit, en fait, je mérite d'être aimée telle que je suis. Ouais. Et je pense quand tu as des femmes à 40 ans qui ont encore ces blessures, et je le vois parce que je les accompagne, et je vois bien que ces stratégies qu'on met en place pour ne pas se montrer telle que l'on est, je sais pas si c'est une question d'âge. Pour moi, c'est vraiment une question de confiance.
Ouais, t'as raison.
Et en fait, j'avais zéro confiance en moi.
Mm.
Et en plus, si tu veux, quand tu as un coup de foudre pour quelqu'un, tu le mets tellement sur un piédestal que forcément, tu te minimises et t'es jamais assez. Et voilà. Et en fait, ça a pas marché.
Ouais.
Parce que lui, il n'aimait pas cette femme-là.
Ouais.
Ça marchait pas. Parce que moi, je pensais être la version parfaite, ça marchait pas.
Ouais.
Du coup, il me quitte à la rentrée vers janvier. Et là, je suis au 36e dessous. Parce qu'imagine, quand t'es passionnée par l'amour, et en plus, je me souviens lui avoir dit, en fait, toi et moi, c'est une histoire d'une vie ou rien. C'est, genre, je le savais, quoi.
Mm.
Je lui dis, toi et moi, si on se met ensemble, ça va durer longtemps et ça va être hyper beau.
Mm.
Je sais, je suis flippante, mais...
le deuxième rendez-vous, le
pauvre,
tu sais.
Le pauvre hyper flippant, surtout qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il pourrait entendre. À l'époque, pour lui aussi, ben,
oui.
Ça fait un peu peur. Et c'est vrai que... j'étais tellement à fond que je me suis dit, je donne la version la plus parfaite que je peux toucher du doigt.
Ouais.
Et je me fais quitter et je me dis, attends, si la meilleure version de moi-même, elle plaît pas, c'est foutu.
Ouais.
Ça marchera jamais. J'aurai jamais l'amour que je veux. J'aurai jamais un couple qui dure. Je me ferai tout le temps tromper, etc., etc. Et ce qui est dingue, c'est que c'est cette tristesse qui m'a permis de trouver l'amour. Parce que du coup, à ce moment-là, je suis au 36e dessous. Et je suis tellement mal que j'arrive plus à porter le masque. J'avais mis ce masque de femme, voilà, pas trop sensible, machin, toujours comme il faut, comme je croyais qu'il fallait être. Mais je le tiens plus parce que je suis trop triste, je suis dévastée. J'étais déjà amoureuse depuis le début. Et voilà, et forcément, cet amour, je l'ai senti puissant et j'y ai cru en plus. Je me suis dit, ok, ça fonctionne. 2-3 mois, ça marche et tout. J'ai le mec que je voulais. J'étais comme une dingue. Mais finalement, ça marchait pas. Et je suis tellement mal que du coup, je peux plus faire semblant à cette époque-là. Et donc du coup, je me dis, c'est tout. On reste hyper proches, vraiment. Je pense que lui, il avait aussi besoin de vivre quelque chose. Quand je suis arrivée dans sa vie, c'est aussi quelqu'un qui a eu... En fait, on a eu un parcours amoureux ultra semblable.
Ouais.
Et c'était fou parce que vraiment tout ce que je t'ai raconté, tu peux retrouver des histoires similaires chez lui. Et donc du coup, quand je l'ai vu, il venait de se séparer d'une relation de 2-3 ans aussi. Et donc du coup, il n'avait pas eu, lui, ces fameux 6 mois dont je te parlais,
ouais,
de célibat qui te permet de comprendre aussi ce que tu cherches. Et il pensait les avoir là. Et sauf que du coup, il y a une petite Élise qui est arrivée et qui lui a dit « Hello, t'es l'homme de ma vie, tu le sais pas, mais toi et moi, c'est pour toujours. » Et en même temps, je pense qu'il y a une partie de lui qui avait envie de ça parce qu'on se plaisait vraiment.
Ouais.
Et c'était pas le plan pour lui. Pour lui, il voulait profiter de cette époque d'école, de s'amuser et de découvrir aussi ses sensations d'être célibataire. Lui qui avait eu que des longues relations, il n'avait pas eu encore ce truc-là de pouvoir sentir le désir, plaire autre qu'avec quelqu'un avec qui t'es longtemps, depuis longtemps. Et donc, du coup, je pense qu'il y avait aussi un mauvais timing à ce moment-là. Et finalement, quand j'ai cru que c'était perdu, donc je l'ai vu dater 2-3 nanas sous mes yeux et tout ça, j'étais trop mal. Et en fait, quand j'ai cru que c'était mort, je me suis dit, bah, ok, en fait, je suis amoureuse, mais ça marche pas. Lui, il a besoin d'un autre chemin, c'est tout. C'était pas le bon moment. Il y avait plein de raisons auxquelles je pouvais me raccrocher, mais j'étais tellement mal, je me suis dit, bon, bah, tant pis, je laisse tomber. Et au moment où j'ai laissé tomber, il a vu ce qu'il allait perdre. Il y a une soirée où en fait il a eu un déclic. Moi je suis sortie avec un gars en soirée, comme ça, hein, rien de spécial. Et une chope de soirée, comme on les appelle. Et en fait, je pense qu'à un moment il s'est dit, ok, en fait, ce qu'il m'a, il m'a vu en fait avec ce mec-là,
ouais,
et ça l'a rendu dingue. Et là il s'est dit, non, mais en fait, je peux pas passer à côté de ça juste parce que c'est pas le bon timing. Et en fait, il est revenu décidé de. En fait, ouais, toi et moi, c'est une longue histoire. Et c'est lui qui est venu me dire, en fait, bah, tout ce que moi, j'avais dit au départ. Et donc, ce qui est trop marrant, c'est que pendant cette période, comme je te le disais, j'ai fait tomber le masque.
Ouais.
Et donc, il a vu mon côté sensible.
Oui, donc tout ça, il a pu le voir en étant quand il même proche, voir, en fait, ensemble.
Exactement. Mmh. Il a pu le voir quand on était proche et où, du coup, j'ai laissé parler mes émotions, j'ai laissé parler ma grande sensibilité, j'ai laissé parler mes 1000 questions que j'ai dans la tête et que j'ai besoin de sortir. J'ai dit ce que... Enfin, j'ai exprimé au sens corporel aussi toute l'attention que j'avais besoin d'avoir, des câlins, de tout ça, de ce que j'attendais.
Ouais.
Et finalement, ça lui plaisait à mort. Et donc, c'est marrant, trop parce bien. Qu'il est tombé amoureux de la vraie moi,
ouais,
alors que moi, j'essayais de la cacher.
Mmh.
Et c'est à ce moment-là que, du coup, il a commencé à s'attacher à la vraie moi. Et quand il a dit, oulala, en fait, il y a moyen qu'elle m'échappe, qu'il est revenu. Et on s'est remis ensemble à ce moment-là. Je l'ai un peu mis à l'épreuve de confiance pendant un mois. Mais j'ai pas pu faire semblant. Après, c'était tellement l'amour fou que j'ai très vite baissé la garde. Et j'ai bien fait. Et je me dis, mais heureusement, ouais, que je lui ai donné cette deuxième chance parce que voilà, on en est là 13 ans plus tard. Et c'est l'homme de ma vie. Et en fait, je pensais même pas qu'on pouvait être en couple comme ça. Je pensais pas que ça pouvait exister en fait.
Pourquoi ?
Parce que j'avais jamais vu ça.
Ouais.
Déjà. Parce qu'effectivement, je sais, j'ai des parents qui sont pas du tout fusionnels et qui sont ensemble comme, bah, comme un vieux couple, hein, comme des. Un vieux couple qui a plus de 70 ans,
ouais,
que dans ma famille, il y a des couples sains. Mes frères, c'était des belles références aussi, notamment un de mes frères qui était en couple depuis ses 20 ans lui aussi et qui est toujours avec sa femme et tout ça. Et donc ça a plutôt été un beau modèle. Mais si tu veux, je les avais en modèle du sens, on peut être ensemble depuis longtemps, mais tu sais pas ce qui se passe dans l'intimité.
Bien sûr.
Et donc si tu veux, j'avais moi jamais vécu ça. Et donc, finalement, j'avais vécu des expériences tellement traumatisantes en termes d'amour que t'imagines un peu mieux. Tu te dis, bon, je veux ça, mais sans qu'il me trompe. Ouais. Ou je veux ça, mais sans qu'il soit chiant. Ou ça, mais... Et on a tous un peu un critère, le point noir, où on se dit, ok, donc la bonne relation, c'est ça sans le point noir.
Ouais.
Et là, j'ai découvert une relation, en fait, où on peut être 100% soi-même, être aimé pendant longtemps. Et c'est marrant parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'aime 1000 fois plus qu'au début. On se dit souvent ça, mais genre... On s'aime encore plus et c'est fait qu'effectivement, on aime cet amour du quotidien aussi, il faut dire. Et c'est,
vous êtes raccord sur l'idée du couple aussi, ouais, de la relation.
Et puis, je pense
relation.
Qu'on a grandi ensemble.
Ouais.
Je pense qu'on a grandi ensemble et que ça, c'est une vraie force du couple et de l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, quand je te raconte tout ça, forcément, je le raconte aussi avec mes yeux d'aujourd'hui.
Mmh.
Et c'est important aussi de se rappeler que notre cerveau, il se souvient aussi que de ce qu'il a envie de se souvenir. Mais tout ce que je sais, c'est que qu'en fait, quand on s'est remis ensemble, on a démarré une aventure ensemble.
Mm.
Et à cette époque-là, j'avais toujours pas confiance en moi, j'avais toujours pas mis des mots sur mon hypersensibilité, j'avais juste compris que je pouvais être sensible et être aimée en étant hypersensible.
Ouais.
Parce que j'ai toujours su que j'étais hypersensible, je connaissais juste pas le terme l'hypersensibilité et tout ce que ça représentait, tout ce qu'il y a derrière, puisque l'hypersensibilité, c'est, tu vois, c'est quelque chose qui a été découvert dans les années 90. Mmh. C'est quelque chose qui est en constante évolution. Encore aujourd'hui, on a des discours qui sont différents de ceux d'il y a 10 ans. Ouais. Donc, si tu veux, je savais que je pouvais être cette fille très sensible, en tout cas, et être aimée pour ça. Et c'est très marrant parce qu'en fait, dans toute la première année de couple avec lui, il y a plein de moments où, en fait, j'ai lâché des moments où j'étais vraiment moi-même et où j'ai vu les yeux de l'amour comme jamais. Mmh. C'est-à-dire, à un moment, on a une petite anecdote ensemble, c'est qu'on rentre au McDo et en fait, il y avait des SDF devant. Et donc, du coup, j'avais pris une frite que j'avais souvent l'habitude de ne pas manger. Je prends le Happy Meal, c'est la vie. Prenez le Happy Meal dans le temps adulte, c'est la vie. Et donc, du coup, je savais que souvent, je ne mangeais pas les frites ou je n'en ai pas envie. Et du coup, j'aurais pris les frites et j'avais amené les sauces. Et je dis, ah, vous voulez quoi plutôt des... Et en fait, j'ai des petits réflexes comme ça où je m'étais accroupie, par exemple, pour être avec eux et tout ça. Et en fait, mon chéri, c'était la première fois qu'il me voyait comme ça. Il m'a dit, mais c'est dingue, t'es tellement gentil. Et je lui ai dit, c'est quand même pas grand-chose. Enfin, je veux dire, pour moi, dans le monde de la gentillesse, c'est quand même juste rien, tu vois. Et en fait, d'un coup, il valorisait des choses chez moi où on m'avait tout le temps critiqué pour ça. C'est-à-dire, on m'avait toujours dit, t'es trop empathique, ou t'en fais trop, ou t'exagères. Et d'un coup, tout ce qui était négatif dans ma vie, d'un coup, devenait une énorme qualité à ses yeux.
C'est tout ce qu'il aimait, quoi.
Tout ce qu'il aimait. Ouais. C'est-à-dire, ma sensibilité... Il trouvait qu'il n'y avait rien de plus beau. Lui, ça lui donnait aussi cet aspect protecteur qu'il aimait bien de pouvoir prendre soin de moi quand on avait besoin. Tout ce qui était câlin, on était hyper raccord aussi sur ce gros besoin de tendresse. Et chez un homme, ce n'est pas forcément aussi toujours facile de le verbaliser.
Ouais.
Et d'avoir quelqu'un qui répond aussi à ça en face, pour qui ce n'est pas trop, ce genre de choses. Mmh. Et donc oui, toutes ces petites choses sur lesquelles on m'a toujours critiqué, sur le fait que tu es trop gentil, t'es trop empathique, tu te prends trop la tête, d'un coup, chez lui, t'es des qualités.
Mmh.
J'ai jamais rencontré quelqu'un qui était aussi gentil, j'adore comme tu t'occupes des autres. Oh là là, toutes ces questions, c'est hyper intéressant, tu trouves toujours des solutions aux problèmes. Et d'un coup, je voyais toute la facette positive de ma sensibilité.
Mmh.
Et ouais, j'ai trouvé ça juste dingue. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut pas se mentir, si on est ensemble 14 ans plus tard, c'est aussi parce qu'on a grandi ensemble, qu'on n'a pas peur d'avoir des conversations inconfortables, qu'on a discuté des choses importantes, qu'on parle beaucoup. Et cet amour, du coup, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on s'aime encore plus aujourd'hui. Ouais. Et on se le dit souvent, c'est que vraiment, par rapport à avant, c'est encore plus fort. Alors que déjà, à l'époque, pour moi, c'était un tsunami d'amour, tu vois. Mais ouais, c'est super de pouvoir se dire, tu peux aussi avancer parce que bah, du coup, j'ai gagné en confiance en moi à ses côtés.
Ouais.
J'ai traversé plein de trucs difficiles. Tu vois, quand je te parlais de 2013, qui était une année noire dans ma vie, il était là. Et il a tout vu et il a vu toutes les difficultés et il est resté. Et il a été un soutien. Je pense qu'il m'a vraiment maintenu la tête hors de l'eau juste d'être là en me disant, quand ta vie professionnelle est difficile, quand tu vis du harcèlement sexuel, quand tu as ta santé qui flanche, que tu perds des membres de ta famille... avoir le pilier amour qui tient, ça fait du bien. De se dire, je parle souvent de la théorie des piliers en coaching, c'est aussi que souvent, ça ne marche pas quand tout est effondré. Et plus tu bâtis des piliers sains, plus ça te permet de travailler sur les piliers qui sont en danger ou qui lâchent à un moment plus sereinement parce qu'il n'y a pas tout qui s'effondre en même temps. Donc plus tu as des piliers sûrs, un peu comme une table, si tu as 5 piliers, bah, s'il y en a un qui pète, il se passe rien, la table elle tient debout.
Ouais.
Bah, là, c'est pareil. Et pour moi, ça a été un énorme pilier. Et ouais, nous voilà, bah, du coup, plus de 13 ans après. Et je crois que le message que j'aimerais adresser, c'est que je ne savais pas qu'on pouvait avoir de l'amour comme ça. Et que ça marche avec de la confiance en l'autre, de la confiance en la vie et de la confiance en soi. Et c'est des choses que je n'avais pas toujours. Et tu n'as pas besoin d'être parfaite et d'avoir 100% confiance en toi pour trouver l'amour. Ça aussi, c'est un discours de coach que je déteste et qu'on retrouve beaucoup. Tu sais qui
est. Ah oui, tu trouveras pas quelqu'un si tu n'as pas confiance en toi. Ou je sais pas
ouais,
quoi.
En fait, souvent, il y a des coachs qui te disent tant que tu t'aimeras pas
oui,
toi,
voilà, c'est ça.
Tu pourras pas être aimé. Pour moi, putain de bullshit.
Bullshit, et puis quelle pression, quoi.
Enfin, ultra
tu vois.
Culpabilisant.
C'est ouf.
C'est horrible. Et moi, j'ai toujours ce discours inverse, c'est faux.
Ouais.
Bien sûr que ça va vous aider, que ça va enlever des barrières et que tu seras plus heureuse et que ça peut te permettre d'aller plus vite. Mais c'est pas vrai. Heureusement, la vérité, c'est que s'il fallait avoir 100% confiance en soi et s'aimer à 100% soi, seul, avant de trouver l'amour, on serait tous célibataires.
Bah ouais, tu rencontres l'amour à 80 ans, enfin.
Ouais, pas... et même encore, parce qu'en plus, j'y crois pas, parce qu'en fait, il y a des choses, ça ne marche que dans l'expérience.
Ouais.
Donc tant que tu l'as pas vécu et qu'il n'y a pas des trucs en mode, ah tiens, ça a marché, ça n'a pas marché, Tu sais, c'est un peu comme quand tu as tes critères de couple. Tu as des trucs en tête, puis tu vas rencontrer un mec et finalement, il y a des trucs que tu pensais importants et ça l'est un peu moins que ce que tu croyais. Et inversement, voilà, il faut le tester, quoi. Et c'est pour ça que je n'y crois pas du tout. Vous avez le droit de ne pas avoir confiance en vous et, et vous méritez l'amour et vous allez le trouver même sans ça. Mais c'est chouette après de grandir ensemble sur ce chemin.
Ouais. Comment tu... Quand ça fait autant de temps que tu es avec la personne, comment tu fais pour maintenir cette flamme et cet amour entre vous ?
Comment vous faites ? C'est marrant cette question de comment on fait pour maintenir l'amour. Parce que j'ai l'impression qu'on pose toujours un peu cette question aux couples qui sont ensemble depuis longtemps. Ouais. Genre, c'est quoi le secret ?
Alors que...
Et en fait, pour moi, c'est juste fluide.
Il ouais.
n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est vrai que je suis partisan de dire que pour moi, quand l'amour, ça marche, c'est fluide. J'ai un discours un peu différent de ceux qui te disent l'amour, s'il n'y a pas de dispute, c'est qu'il n'y a pas d'amour, c'est que c'est pas passionné et tout. C'est pas vrai. En tout cas, pour moi, on se dispute jamais. Je veux dire, on a dû avoir, je sais pas, 5 discussions en 10 ans qui étaient un peu tendues, où on était tous les deux un peu, où on était en désaccord, etc. Mais en fait, après, tu peux avoir des échanges où tu vas parler de sujets importants, mais ça veut dire qu'il faut être capable de les aborder, d'être au clair sur ce que tu ressens, sur ce que tu veux, etc. Donc pour moi, le secret pour être ensemble, ou du coup ce qui fait que ça marche encore, je pense que c'est plusieurs choses. C'est un, c'est une recette à 4 mains. Ça veut dire que tu peux pas porter la responsabilité d'une relation qui marche seule.
Ouais.
Et c'est vrai pour ça que souvent tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour que la relation elle marche ? Tu peux faire que 50%. Et en vrai 40%. Parce qu'il y a aussi tout ce qui fait les éléments extérieurs, les choses qui peuvent arriver. Donc déjà, se rappeler que c'est une relation qui marche à 4 mains. Et cette recette, tu peux faire que la moitié. Donc moi, si ça marche avec lui, c'est parce que c'est lui. Et pas parce que je suis une personne excellente. C'est juste parce que la pièce du puzzle, elle marche bien. Et je pense que déjà, le premier truc à se dire, c'est ça, c'est que très souvent, on pense qu'il faut un comportement pour trouver l'amour. Alors qu'en fait, il faut aussi juste trouver la bonne personne.
Ouais.
Parce que tu me mets telle que je suis aujourd'hui. La même personne, la même façon d'être, la même sensibilité, le même métier, la même situation de vie. Tu me mets avec un autre mec, ça ne va pas marcher. Et pourtant, je suis la même personne. Donc vraiment, je pense que le premier secret, c'est de se dire qu'en fait, c'est une histoire de compatibilité et que vous ne pouvez pas tout porter comme il y a des fois des relations. Vous aurez beau faire tout ce qu'il faut, ça ne marchera pas.
Ben oui, bien sûr.
Donc déjà, je pense que ça marche parce que c'est lui et parce que c'est moi. Le deuxième point, je pense que c'est la communication à fond. C'est-à-dire qu'il y a des discussions qui sont inconfortables. Et une discussion inconfortable, c'est pas une dispute. Y a pas besoin de se gueuler dessus. Effectivement, il y a quelque chose dans notre couple qu'on voit assez peu et qui, pour nous, on y tient et c'est important. On n'a jamais eu de parole haute avec l'autre personne. Dès le début, on s'est toujours dit pas d'insultes, pas d'agressivité, pas de choses comme ça. Je lui ai jamais dit « t'es trop con » ou « ferme ta gueule ». Jamais, jamais. Donc ça, je pense qu'effectivement, ce respect de base, le fait de se parler correctement, ça a évité aussi que ça parte dans les tours. Et c'est des trucs que j'avais pas forcément fait peut-être avec mes ex, je m'en souviens plus trop, mais c'est des choses où maintenant, quand tu vois les séries, quand tu vois les films et tout, il y a tellement la normalisation de la dispute, ou en mode de, je me suis emportée et tout, que finalement, on considère que c'est normal. Je pense que ça nous a vachement préservé aussi, et encore aujourd'hui, jamais on s'insulte, jamais on se parle mal, jamais... Voilà, donc je pense que il y a ça qui est important, la possibilité d'avoir des discussions qui sont inconfortables, c'est-à-dire voilà ce que je ressens, voilà ce qui m'a pas plu. Mais ça, c'est des conseils qui marchent pour toutes les relations et pas forcément amoureuses en fait. Et après, je pense que ce qui est vrai et qui est quelque chose qui est difficilement maîtrisable, c'est qu'on en parlait dans notre début d'échange, c'est que moi j'ai toujours aimé le quotidien. Et mon mec aime le quotidien aussi. Et on aime cet amour du quotidien.
Et ça, ça marche. Du coup.
Et ça, ça marche. Ouais. Et le truc, c'est que je pense aussi qu'on met la pression à des femmes qui n'ont pas envie de ça. C'est-à-dire que moi, mon couple, il ne vaut pas mieux que quelqu'un qui va enchaîner plein de relations hyper courtes et hyper intenses et qui aime ces fameux débuts. Elle est juste idéale pour nous. Et c'est vrai que moi, j'aime cet amour du quotidien. J'aime la routine qu'on peut avoir ensemble, le fait de faire... Enfin, nous, nos vacances idéales, c'est toutes les années, on va en Espagne. 3 semaines et on fout rien et on est que tous les deux. Et il y a plein de gens qui nous ont dit mais moi je fais ça, ça me rend dingue.
Ouais bien sûr. c'est un truc d'envie que vous partagez, et du coup ça fonctionne quoi.
Exactement. Et donc je pense qu'il y a ça aussi, c'est que effectivement nous on aime les relations longues parce qu'on aime l'amour du quotidien, des choses simples, de partager le rien ensemble en fait, de partager le bonheur du quotidien ensemble. Et ça, je pense que ça fait aussi que ça marche. Je disais à une de mes coachées un moment, je pense que ça marche parce qu'on se considère tous les deux chanceux d'être avec l'autre.
Ouais.
Et tous les deux. Ça ne veut pas dire j'ai de la chance d'être avec lui. Non, c'est je pense qu'il a de la chance d'être avec moi et moi, je sais toute la chance que j'ai d'être avec lui. Et je pense que c'est cette équité qui fait que ça marche. Et ce qui fait aussi que ça n'a pas marché au début, c'est que je me sentais hyper chanceuse d'être avec lui.
Oui.
Mais je ne pensais pas qu'il avait de la chance d'être avec moi.
Ouais.
Et cette asymétrie-là, elle craint. Et il y a plein de couples où, tu vois, moi, j'étais coachée, où du coup, ce qui plombe leur relation, c'est ça. C'est parce qu'elle pense que l'autre est génial et qu'elle, c'est des grosses merdes.
Ouais.
Ça ne marche pas. Ça marche quand tu as assez d'estime pour toi et que tu en as autant pour l'autre. Et ce n'est pas au détriment de l'autre. Ça ne veut pas dire te considérer supérieur non plus, c'est les deux.
Trop bien. Tu dis des choses vraiment très intéressantes, je trouve. Je pense que c'est dû à ton métier, en effet.
Oui, ça m'aide.
Mais du coup, ouais, t'expliques bien les théories, les trucs comme ça, et c'est très clair.
Bah, surtout que c'est un sujet qui me passionne. Ouais. Donc, c'est vrai que, tu vois, les relations amoureuses, c'est un sujet qui est prioritaire dans tous mes coachings. Ça revient toujours. Ouais. Parce que, ben, déjà, je suis une passionnée des relations en général. Et puis, l'amour, ben, on peut pas passer à côté. Mais même si je trouve ça important aussi de rappeler que l'amour, c'est pas forcément le couple.
Ouais.
Moi, c'est ma façon d'être amoureuse.
Ouais.
Mais tu vois, moi, j'ai des coachés à qui je dis, mais en fait, est-ce que tu veux être en couple? Et c'est quoi ta définition? Enfin, moi, je ne pousse jamais mes coachés à avoir un couple comme le mien.
Ouais.
Je les questionne sur qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles ont vécu et tout. Et en fait, pour moi, tu peux être dans l'amour quand tu es célibataire et vouloir être célibataire. Quand tu veux être en couple avec... cette folie du début et c'est ton plaisir ou du polyamour, etc. Le tout, c'est de le savoir, en fait, et de savoir le communiquer.
Ouais.
Je pense que c'est ça, la clé. Et juste, moi, c'est vrai que j'ai ça. J'ai cette passion de l'amour du quotidien, quoi, qui est partagée.
Qu'est-ce que tu te souhaites pour les années à venir?
Que ça dure. Ouais. J'espère que tu m'intervieweras dans 50 ans et je te dirai « Oh, ça fait trop les gars !» Ça fait 63 ans qu'on est ensemble. Ouais, non, vraiment, c'est super. J'aimerais qu'on fasse une fête de l'amour, d'ailleurs. Ouais. Je dis ça plutôt qu'un mariage. Mmh. Parce qu'en fait, je sais pas, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Nous, on s'en fout, ça changera pas grand-chose.
Ouais.
On n'a pas cet attachement-là. Mais j'ai envie de faire une fête de l'amour.
Trop bien.
Tu vois, pour nos 15 ans ou nos 20 ans ensemble. Et donc, en termes d'amour, ouais, tu peux me souhaiter que ça continue. Qu'on continue de développer cet amour, qu'on garde la santé pour en profiter.
Ouais.
Et de continuer à le répandre, parce que j'espère... je sais que quand je suis au contact d'amis ou d'autres couples, j'espère pouvoir faire ce qui m'a manqué, c'est de prouver qu'on peut s'aimer comme ça. Et de prouver à des femmes que tu peux être une femme très sensible, hyper sensible, être toi-même avec tout ce que tout le monde considère être des défauts et être aimée à la folie pour ça.
Ouais.
Et j'espère aussi que du coup, c'est pour ça que j'essaye de partager un peu plus de ma vie privée sur les réseaux sociaux pour pouvoir ça dire parle. À ces femmes-là, ça marche quoi. Et c'est possible.
Ouais.
Et ces mecs-là existent, tu vois. Ce qu'on ne voit pas beaucoup dans les séries ou les films.
Ouais.
Où tu as toujours un peu ce... Tu sais, c'est toujours le même scénario. C'est le mec qui est un peu méchant. Et puis
un
après,
peu bad boy bâtard. Quoi.
Voilà. Non, moi, je tombais juste sur un mec qui est beau, drôle, intelligent et hyper gentil. Enfin,
ouais.
C'est dingue. Je suis toujours épatée par sa gentillesse, sa confiance. Et qui, lui aussi, a vécu des trucs hyper durs en amour, quoi. Il ne faut pas oublier. Donc ouais, vous avez le droit en fait d'être aimé avec votre hypersensibilité, avec tout ce que les autres considèrent des défauts. Il existe une personne sur cette planète au moins qui trouve que c'est des super qualités. Et le trou, c'est que c'est de trouver cette personne-là.
Trop bien.
Et moi, j'aide les femmes à trouver cette personne-là en prenant confiance en elle justement. Ce que j'avais pas et où j'ai mis un peu de temps. L'idée, c'est qu'en fait, il y a un raccourci qui existe, c'est hyper pratique. C'est l'amour de soi, effectivement. Mais vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour ça et ça, c'est cool.
Trop bien. Merci beaucoup, Élise.
Merci à toi, Léa.
Trop, trop bien.
Ouais, j'ai adoré. Merci.
À dans 5 ans, non ?
Oui.
Du coup.
On est parti sur tous les 5 ans. On se refait un bilan dans 5 ans.
Dans 5 ans, ok. Peut-être un autre sujet.
Carrément. Merci encore.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et merci à Élise pour son témoignage. Si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à lea.bordier@gmail.com avec amour en objet. Toutes les informations sont en description. Je fais une pause dans les publications pendant les vacances de Noël, donc je vous donne rendez-vous le 8 janvier pour un nouvel épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.